King Nomad.
Bonjour, je suis Camille Deslauriers. Bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet Rimouski de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci à l'émission, dans un premier temps, nous recevons Mme Carole David, poète, romancière et nouvelière. Elle est venue animer un atelier d'écriture à Lucar et elle a accepté de venir nous parler de son dernier livre, une novella intitulée Hollandia, paru aux éditions Héliotrope en 2011. Dans un deuxième temps, nous allons enchaîner avec une capsule d'histoire littéraire. Mes collègues Catherine Gosselin et Martin Robitaille vous proposeront une capsule d'histoire littéraire portant sur Proust et la guerre. Enfin, dans un troisième temps, nous allons reparler avec Carole David et suivant notre tradition et aussi pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission, nous allons aborder ses lectures phares, son rapport à la lecture et l'influence de certains livres ou de certains auteurs marquants dans sa démarche d'écrivaine. En fin d'émission, nous aurons le plaisir d'entendre un extrait de la novella Hollandia et nous aurons l'honneur d'entendre l'auteur elle-même nous le lire. Alors, nous accueillons aujourd'hui à l'émission Mme Carole David. Bonjour Carole et bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ça nous fait plaisir. Il conviendrait peut-être d'abord, je pense, de résumer très brièvement Hollandia. Hollandia raconte l'histoire de Max, un jeune adulte en fugue, qui s'en va en Hollande pour retrouver la tombe de son grand-oncle, un aviateur dont l'avion a explosé pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1943. Mais Hollandia, c'est aussi l'histoire de sa mère, Joanne, qui vit maintenant dans la maison familiale dont elle a hérité de ses propres parents et qui devient, la maison qui devient au fond le symbole de toute sa mémoire familiale, hein? Celle de sa propre enfance qui a eu pour toile de fond la guerre froide et l'abri anti-atomique construit par ses parents et celle de la famille éclatée qu'elle forme avec son fils Max, dont le père qui vit aux États-Unis est aussi un fugueur qui avait déserté la guerre du Vietnam. D'abord, Carole, j'aimerais qu'on parle un peu de la question du genre littéraire. Vous avez publié des recueils de poésie, plusieurs, des récits, un recueil de nouvelles, un roman, et avec Hollandia, une novella qui est parue dans la série K des éditions Héliotrope, et je cite, « des textes littéraires écrits à la périphérie du roman ». Qu'est-ce qui fait que cette histoire-là, précisément, demandait ce genre-là qui s'inscrit en quelque sorte aux confins de la nouvelle et du roman? Et c'est un genre qu'on rencontre quand même assez rarement dans l'édition québécoise contemporaine. Pourquoi avoir choisi ce genre-là?
Tout d'abord, c'est Olga Duhamel, les éditrices, et Florence Noyer d'Héliotrope qui m'ont approchée pour publier dans cette série. Et donc, on m'a demandé si j'avais un texte bref dans mes tiroirs. Donc, je travaillais depuis longtemps sur ce texte et puis je leur ai proposé. De toute façon, tout le travail que je fais en littérature se situe toujours aux confins des genres. Oui. Donc, c'est ce qui m'intéresse principalement. Je sais que c'est rare, dans la littérature québécoise contemporaine, mais moi, c'est ça qui m'intéresse principalement comme projet. Donc, je suis toujours à la limite du glissement des genres.
Et, dans l'hybridité.
Dans l'hybridité, toujours, oui. Dans les formes hétérogènes. C'est clair que la proposition qu'elles m'ont faite, je trouvais que c'était tout indiqué pour mon travail.
D'accord.
Donc, c'était tout naturel d'aller publier ce texte dans cette collection.
Dans cette collection-là. D'ailleurs, l'écriture en elle-même est aussi très poétique. Hein? Donc, on est encore là dans le flottement. Les genres, il y a des images très fortes et tout. Et il y a une musique du texte qui fait qu'on se rapproche aussi un peu de la poésie, j'ai l'impression.
Oui, c'est clair. Donc, c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup. Je travaille dans la brièveté tout le temps. Donc, c'est sûr que même dans le récit, dans tout ce qui est narratif, je vais travailler aussi toujours en ellipse, en raccourci.
Oui.
Donc, je vais adopter un peu la même posture, là, même dans la prose.
D'accord. Ensuite, j'aimerais qu'on aborde le choix de l'un des thèmes, hein, parce que parmi les thèmes que vous explorez dans cette nouvelle-là, on peut noter celui de la mémoire, celui de la fugue ou de la disparition, celui de l'identité, mais celui qui m'intéresse plus précisément, c'est celui de la guerre. Hein. La guerre qui tisse la toile de fond qui lie toutes les générations mises en scène dans Hollandia et qui devient même, en quelque sorte, une métaphore de ce que vivent les personnages. Vous abordez à la fois la Deuxième Guerre mondiale qui a entraîné la mort de l'oncle de Joanne et du grand-oncle de Max, la guerre du Vietnam que déserte le père de Max, la guerre froide qui incite les parents de Joanne à construire un abri anti-atomique, la guerre dans les jeux vidéo auxquels joue Max et même la guerre intérieure qui caractérise Joanne et sans doute aussi Max. Hein? Pourquoi avoir choisi ce thème-là et qu'est-ce qui vous intéressait dans ce thème-là?
Bien, ce que je trouve particulier, c'est qu'au Québec, au Canada, en Amérique, on n'a pas connu la guerre. Mm. C'est-à-dire que, bon, on a connu la guerre, mais à distance. Donc, oui. Toutes les guerres, tous les grands conflits mondiaux, sauf que, de façon quotidienne, on n'a pas connu les affres de la guerre. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait, comment la guerre a été vécue ici, toutes les guerres, en fait. Oui. Et moi, la guerre, évidemment, de ma génération, c'est la guerre du Vietnam. Donc, j'étais adolescente, jeune adulte, j'étais fascinée par la guerre du Vietnam qu'on pouvait voir en direct à la télé pratiquement. Mm-hmm. Et donc, cette novella, j'avais commencé un roman sur ce qu'on appelle un draft dodger, là, donc un objecteur de conscience. Il y en a eu beaucoup qui se sont réfugiés à Montréal, j'en ai connu. Alors, mon roman s'était amorcé de cette façon-là. Et puis, en cours de route, donc je suis tombée sur un site web où j'ai vu la photo de mon oncle, mon grand-oncle, ben, mon oncle, en fait, aviateur. Et donc, une partie dans cette novelle-là qui est vraiment autobiographique.
Ah, c'est intéressant.
Et la dédicace, c'est justement un oncle que je n'ai jamais connu parce qu'il est mort. Mm-hmm. Donc, toute cette partie-là dans la novella est vraie. Mm-hmm. Sauf que j'ai reconstitué, évidemment, par la fiction des choses qui m'échappaient ou, bon, je ne savais pas. Donc, il est vraiment mort au-dessus de la Hollande.
D'accord.
Il est vraiment enterré à Utrecht. Et donc, pendant que j'écrivais sur la guerre du Vietnam, donc, et je suis tombée sur ce site web, et donc là, j'ai essayé de conjuguer, finalement, différentes guerres. Mm-hmm. Et, de fil en aiguille, j'ai construit une histoire où, je présente dans cette novelle-là, là, quand même, la guerre froide, la Deuxième Guerre, la guerre du Vietnam. Et ça a été le fil conducteur de cette novelle-là, parce que j'ai toujours été fascinée. Mon père était fasciné par la Deuxième Guerre. Il est toujours, d'ailleurs, justement à cause de la mort de son frère.
Ouais.
Lui, était trop jeune pour participer à la guerre. Et donc, moi, par la guerre du Vietnam, par la guerre froide aussi. Donc, c'est sûr que ça a profondément marqué mon imaginaire. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé là-dessus dans cette fiction.
D'accord, merci. Enfin, Carole, j'aimerais vous entendre parler aussi de la question des intertextes dans votre démarche d'écrivaine et de la structure de votre novella. Parce que chaque chapitre est précédé d'une citation en exergue. Et j'aimerais savoir si vous les avez choisis avant l'écriture ou après l'écriture de chacun des chapitres. En d'autres mots, est-ce qu'il s'agit d'échos ou de levier d'écriture? Hein, hier, lors de l'atelier d'écriture, vous parliez de textes passerelles qui peuvent inspirer des textes qu'on est en train d'écrire. Donc, est-ce que c'est ça dans votre cas ou les exergues ont été choisis après coup?
J'ai beaucoup lu sur la guerre. J'ai lu toutes sortes de choses et aussi j'ai lu des écrivains qui ont écrit sur la guerre et pendant la guerre, bon, disons Apollinaire, par exemple, que je connaissais déjà. Donc, j'ai lu pendant l'écriture avant et puis ensuite, quand j'ai organisé toute cette matière-là, donc j'ai choisi des citations que j'avais notées dans des carnets lors de mes lectures. Donc, je trouvais ça fascinant. Parce que en fait, tous les soldats dans ce livre-là ont le même âge, là, ils ont dans la vingtaine.
Oui.
Donc, ce sont de jeunes hommes, et c'est ça aussi qui m'intéressait. Et ce que j'ai choisi, par exemple, Tim O'Brien, qui est un écrivain américain, mm-hmm. mais qui a fait la guerre du Vietnam. Donc, il a écrit sur la guerre du Vietnam. Le rapport de l'écrivain à la guerre, de l'homme aussi à la guerre, mm-hmm. Je trouvais ça fascinant. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit mon texte aussi. Je suis même remontée jusqu'à Alain Fournier, oui. Le Grand Monde et tout ça. Donc, j'ai refait aussi des lectures que j'avais déjà faites là, mm-hmm. dans le passé.
Donc, pour instaurer un dialogue avec ces autres écrivains qui avaient parlé
exactement.
Du même thème.
Oui.
C'est très bien. Merci beaucoup, Carole, d'avoir répondu à mes questions sur votre démarche créatrice et sur votre novella Hollandia.
Merci.
Bonjour, ici Catherine Gosselin. J'ai le grand plaisir de m'entretenir cet après-midi avec Martin Robitaille. Martin, bonjour.
Bonjour, Catherine.
Alors, Martin, vous allez nous parler de Proust et la guerre. Donc, c'est un intitulé qui nous surprend. On ne pense pas spontanément à Proust comme un romancier de la guerre, à La recherche du temps perdu comme une œuvre sur la guerre. Alors, est-ce que c'est une fausse image qu'on se fait de Proust et de la recherche ou est-ce qu'il y a une réelle incompatibilité entre Proust et la guerre?
Ah, ça, c'est une très bonne question. On pense toujours à Proust comme l'écrivain des salons, du Paris mondain, mm-hmm. ou le Proust de la campagne bucolique et des églises romanes. Il est vrai que la majeure partie de la recherche ne traite pas de ce sujet. Mais Proust a toujours montré de l'intérêt pour l'armée et pour les réalités de la guerre.
Oui.
Il a beaucoup aimé notamment son année passée à partir de novembre 1889 à la caserne du 76e régiment mm-hmm. d'infanterie à Orléans lors de son service militaire. Hein, on oublie que Proust a fait son service. Il y évoque avec bonheur ses camarades paysans et la vie réglée qui discipline l'imagination. Alors, il y a ce Proust-là. Il y a aussi un Proust qu'on n'imagine pas assez bien, qui était un Proust viril, bien plus que ce que les photos, par exemple, nous laissent voir de lui. Proust n'avait rien d'un efféminé qui aurait eu en horreur les comportements machos, trop mâles, associés à tout ce qui est guerrier. Pas du tout. Donc, et c'était en plus quelqu'un, évidemment, d'extrêmement curieux, qui pouvait se passionner notamment pour les mouvements de troupes sur le terrain, mm-hmm. Tout ce qu'on pourrait appeler la géopolitique de la guerre. Donc, il lisait les journaux tous les jours et il se renseignait quotidiennement sur cette réalité de la guerre. Il est aussi de bon temps chez beaucoup d'écrivains et d'intellectuels aujourd'hui, notamment au Québec, de considérer la guerre, les guerres, comme un sujet qui n'est pas digne d'intérêt, quelque chose qu'on doit cacher parce qu'elle montre toujours le côté trop sombre de mm-hmm. l'homme. Et l'autre réaction aussi, c'est face aux grandes catastrophes naturelles ou aux guerres, de se demander à quoi peut servir l'art. Hein?
Bien sûr, oui.
Donc, il ne faut pas oublier que Proust a écrit « À la recherche du temps perdu » en même temps en grande partie que la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, et également la grippe espagnole, qui a fait plus de 50 millions de morts.
Très bien, merci Martin, ça replace beaucoup de choses. La guerre, est-ce que la guerre est un sujet dont Proust s'est mis à parler spontanément, ou est-ce qu'il s'est plutôt senti obligé d'en parler dans son œuvre?
Il faut rappeler que la recherche est en grande partie composée, structurée, au moment de l'éclatement de la guerre en 1914. Proust a déjà publié chez Grasset du côté de chez Swann en 1913. La guerre éclate. Alors là, évidemment, le monde de l'édition ne peut plus continuer comme avant. Et Proust va se retrouver, malgré lui, en train d'écrire la suite de son roman sans qu'il puisse la publier. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire grossir l'œuvre de l'intérieur et la recherche va doubler de volume pendant les 5 années où il n'est pas possible de publier ses œuvres. Et donc, À l'ombre des jeunes filles en fleurs sort en 1918 et il va avoir le prix Goncourt pour cette œuvre en 1919. Donc, on peut penser, à la suite d'Elisheva Rosen, que sous la pression de l'actualité, Proust avait souhaité mettre sa vision et son esthétique à l'épreuve du réel. Mais il ne va pas dans son roman y aller d'un élan patriotique ou d'une description tragique des événements et de la conscience de l'époque. Ça aurait été anti-proustien de sa part. Donc, c'est aussi là son génie. C'est que plutôt que de se forcer à dire des choses sur la guerre qui n'auraient pas été dans sa vision des choses, dans son esthétique, Proust va surtout traiter des diverses manifestations de l'ordre du discours en temps de guerre, ainsi que des évidences à la fois comiques et odieuses qui sous-tendent tous ses discours. Alors, Proust lui-même a très vite été réformé pour raison de santé. Il n'a pas participé à la guerre. Et le narrateur de la recherche non plus. Donc, le narrateur s'exile à la campagne et il va vivre la guerre de l'extérieur. Comme beaucoup de gens à l'époque aussi. La guerre n'est donc pas vécue en direct. Elle est vue par discours rapportés, par articles de journaux et par ce qu'elle change chez tous ceux qui sont restés derrière, à Paris ou en campagne, changements qui sont visibles notamment dans quoi? Bien, dans la mode, dans les conversations, dans le rationnement. Donc, des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement quand on veut évoquer la guerre. Alors, si pour Proust, la guerre a une incidence sur l'artiste, c'est surtout parce qu'elle le confronte à ses limites. Il va donc opérer par restriction de champ, ce qui n'est pas du tout une occultation de la réalité, mais bien une manière de voir une réalité autre. Voilà.
Merci beaucoup, Martin Robitaille, pour toutes ces précisions qui nous font connaître un autre Proust, une autre facette de la recherche. Vous allez maintenant nous lire un extrait qui va vous permettre d'exemplifier ce que vous avez essayé de nous montrer aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, c'est au début de la Première Guerre mondiale, alors que les Allemands sont à moins de 50 km de Paris, Madame Verdurin a obtenu une ordonnance du docteur Cottard lui permettant de se procurer des croissants sous prétexte de soigner sa migraine. Alors, cela se passe le jour du naufrage du Lusitania, ou plutôt le lendemain, quand les journaux en colportent la nouvelle, le 8 mai 1915, par conséquent. Elle prend son petit déjeuner, et voici ce que l'on peut entendre. Tout en trempant le croissant dans le café au lait et donnant des pichenettes à son journal pour qu'il pût se tenir grand ouvert sans qu'elle eût besoin de détourner son autre main des trempettes, elle disait « Quelle horreur! Cela dépasse en horreur les plus affreuses tragédies. » Mais la mort de tous ces noyés ne devait lui apparaître que réduite au milliardième, car, tout en faisant la bouche pleine ses réflexions désolées, l'air qui surnageait sur sa figure, amené probablement là par la saveur du croissant, si précieux contre la migraine, était plutôt celui d'une douce satisfaction. Thank you.
Nous sommes de retour avec Carole David pour le troisième segment de notre émission. Carole, si vous deviez identifier deux auteurs marquants qui ont joué un grand rôle dans votre parcours de lectrice ou d'écrivaine, quels sont les noms qui vous viendraient à l'esprit? Pourquoi?
Alors, il y a d'abord l'écrivain américain Raymond Carver. Mm-hmm. Bon, tout d'abord parce qu'il a pratiqué deux genres que je pratique, la poésie et la nouvelle. Donc, pour moi, c'est un écrivain qui a vraiment changé ma vie, donc qui est d'une influence très importante. Oui. Et puis, je vais en nommer deux autres rapidement.
C'est grave.
Deux femmes, Annie Ernaux et puis Natalia Ginsberg, qui est une romancière italienne, et Annie Ernaux, mm-hmm. Qui, évidemment, pour moi, ce sont deux femmes qui pratiquent une écriture... qui a, dans le cas de Natalia Ginsberg, parce qu'elle est décédée, là, une écriture qui est très dépouillée, qui est très, oui. Qui est anti-lyrique, qui vraiment travaille le réel de façon assez incroyable et qui parle aussi des petites gens. J'adore ces deux écrivaines-là. La même chose pour Carver. Aussi, c'est ce qui réunit ces trois écrivains-là. C'est vraiment toujours mon obsession de l'ellipse et de la brièveté.
D'accord. En contrepartie, parce qu'on est un peu curieux à tous les mois, on aimerait savoir quelles sont les œuvres ou les livres qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la bibliothèque de Carole David.
Ah, des livres de psychopop.
Ah bon?
Oui. Alors, donc, je suis assez... je suis déménagée et j'ai vendu une bonne partie de ma bibliothèque, mais c'est sûr que j'ai une bibliothèque pas secrète, là, mais noire. j'aime bien les livres de psychopop sur toutes sortes de sujets.
D'accord.
Parce que ça traite de façon légère de la nature humaine.
Oui.
Puis je pense que quand on est romancier ou novelliste, là, on s'intéresse aux gens. Donc,
oui.
On s'intéresse aussi peut-être des fois à ces raccourcis qui sont dans les livres de psychopop.
Oui.
Donc, c'est toujours plus facile à lire que Lacan ou de se retrouver dans Freud. Alors, j'aime bien ça. Fouiller là. Mais c'est comme aussi les livres de recettes.
Ah bon?
Donc, même si je ne cuisine à peu près plus, j'aime bien les livres j'aime bien lire des recettes. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'adore...
Vous les goûtez déjà en les lisant.
Oui, c'est ça. Donc, j'adore les images, etc.
Bon, bien, merci beaucoup, Carole David. Maintenant, écoutons Carole David nous lire un extrait de sa novella « Hollandia ».
Max était transformé depuis ce voyage. Il n'était plus cet adolescent attardé, léger, aérien, sans avenir. Quand il avait disparu de la maison, Johan avait parlé au détective chargé de l'enquête d'un éventuel enlèvement. « Votre fils est majeur, madame, et c'est aussi un homme qui s'est mis dans le pétrin. » Max est retourné chez sa mère après son pèlerinage aux Pays-Bas. On aurait dit qu'il n'avait pas bougé de sa chaise. Sa chambre était propre, chaque objet rangé à sa place, presque de manière compulsive. Elle s'attendait à l'annonce de sa mort. Il était debout devant elle avec sa dernière chance. Ses bras gardaient les cicatrices de profondes mutilations. Il avait perdu du poids et portait de nouveaux vêtements. Il avait changé de peau. Son crâne rasé lui donnait l'allure d'un jeune homme atteint d'une maladie grave. Il a dit « Je veux guérir et aller chez mon père dans le Maine. » Depuis qu'il avait renoué avec son père, il n'était plus cette bombe silencieuse, ce fardeau qu'il fallait porter jour après jour. Il a dit à Johan ce qu'il a vu et entendu, des jeunes hommes de son âge brûlés à la suite de l'écrasement d'un bombardier, la présence de l'oncle Phil dans ce paysage lumineux, des voix contrites, d'autres récitant des vers de poètes de guerre, John McCrae et ses coquelicots s'étendant à perte de vue dans les champs de Flandre, William Owen écrivant sa dernière lettre à sa mère dans une tranchée. Ils ont laissé des traces de leur présence.
Merci, Carole. Merci beaucoup à notre écrivaine invitée, Carole David. J'aimerais également remercier mes collaborateurs qui sont parfois aussi mes co-animateurs, Claude Lacharité, Martin Robitaille et Catherine Gosselin. Merci également à Jean-Luc Théberge à la technique. Je vous rappelle que l'émission « Sous l'influence des livres » a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Chères auditrices et chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver le mois prochain.
Parking Nomade.